Nous tournons ce matin dans le livre de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Et nous sommes à la fin de notre série sur la création. Le message de ce matin, les 13 vérités de la Bible. Ce matin, nous allons parler de la Bible. Alors, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous savons que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le texte ici, dans l'Évangile de Jean, nous dit que la parole de Dieu était déjà présente au début de la création. Il n'y a rien qui a été fait sans la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la parole était là, la Bible était déjà là. C'est un petit peu dur à comprendre. C'est comme, si on veut, une construction puis un plan d'architecte avant. Avant la construction, vous savez, quand il y a une construction, il y a toujours un plan afin que les ouvriers puissent savoir le déroulement de la construction, qu'est-ce qu'il y a à faire, les matériaux, tout ça. Alors, c'est un peu comme cela. La création n'a pas été faite sans la parole de Dieu. Alors, les cieux et la terre ont été créés et la Bible, d'une certaine façon, existait déjà. Elle a été écrite après, mais elle existait d'une certaine façon avec Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Parce qu'il est dit, elle était avec Dieu, en communion avec Dieu. Et le verset 14, un peu plus loin, nous dit que la parole a été faite chair. Ça veut dire Jésus-Christ. Alors, il y a vraiment un lien entre la parole, entre Dieu et Jésus. C'est tous, et le Saint-Esprit, c'est tous un... On sait que c'est une trinité, mais la parole est là. La parole, c'est Dieu d'une certaine façon. Alors, ce matin, 13 vérités de la Bible, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible? Alors, la Bible, c'est un dérivé du mot grec « biblios ». Nous savons que dans le Nouveau Testament, c'est le grec. Il y a une traduction, les traductions viennent du grec, parce que dans ce temps-là, c'était la langue à l'époque. Biblios, qui veut dire rouleau ou livre. Et ce mot est utilisé dans le texte grec de Luc, chapitre 4, verset 17, pour désigner spécifiquement le parchemin du prophète Isaïe. Alors, on utilise le mot Bible qui met l'accent sur le fait que les Écritures sont un ensemble de travaux qui se présentaient originairement sous la forme d'un rouleau. Vous savez que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de livres, c'était des rouleaux. Alors, il y a la Bible, on dit aussi qu'on utilise souvent le terme « les Écritures ». Et c'est un mot également qui est utilisé dans l'Ancien Testament. C'est un mot qui est utilisé par l'apôtre Paul. C'est un terme grec qui fait référence à des écrits sacré, inspiré par Dieu. Et il y a un autre terme qu'on utilise également que la Bible et l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Alors, ce qu'on va utiliser souvent, le plus souvent, c'est la Bible. On va utiliser aussi le terme les Écritures et la parole de Dieu. Alors, la Bible, c'est quoi? La Bible, ce sont des livres sacrés de Dieu. C'est une collection de 66 livres inspirés par Dieu et répartis en deux groupes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le premier livre imprimé en 1456. C'est un livre qui est vendu en 20 millions de copies par année. L'Ancien Testament débute avec la création de l'univers et se termine 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. L'Ancien Testament comporte 39 livres classés en 5 catégories. Les livres de la loi, les livres historiques, les livres poétiques, les grands et les petits prophètes. L'Ancien Testament traite de la création de l'univers. L'Ancien Testament traite de la chute de l'homme, du déluge, de l'histoire de la nation d'Israël. Et après cela, il y a 400 années de silence et nous tombons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lui, débute avec la naissance de Jésus-Christ et se termine avec le livre de l'Apocalypse. 27 livres dans le Nouveau Testament, comparé à 39 livres dans l'Ancien Testament, classés comme suit les Évangiles, le livre des Actes, les Épîtres et l'Apocalypse. Alors, le Nouveau Testament traite de la vie de Jésus, l'établissement de l'Église, l'histoire de l'Église, le retour du Seigneur Jésus et la vie sur terre à venir. Alors, pour comprendre la Bible, il est essentiel de comprendre que c'est un livre qui va de la création à l'éternité. C'est un livre chronologique. C'est un livre qui a environ 6000 ans d'histoire. Le thème principal, c'est la création par Dieu et le rassemblement d'un groupe d'êtres humains créés pour le louer et l'honorer et le servir éternellement, à travers desquels il puisse manifester sa sagesse, sa puissance, sa miséricorde et sa grâce. Alors, la Bible nous révèle le plan de Dieu pour une rédemption, la rédemption de l'homme, à travers l'histoire. Alors, ce plan passe par différentes promesses, différentes alliances faites par Dieu. Il y a toujours 5 points qui sont exposés tout au long du livre. Premièrement, la personne de Dieu. Deuxièmement, le jugement de Dieu réservé au péché. On sait que le péché, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Troisièmement, la bénédiction réservée à l'obéissance. Quatrièmement, le Seigneur Jésus. Et cinquièmement, le royaume à venir. Alors, il y a tout le temps 5 points. La personne de Dieu, le jugement réservé au péché, la bénédiction réservée à l'obéissance, le Seigneur Jésus et le royaume à venir. 13 vérités fondamentales. Il y en a d'autres, sûrement. J'en ai pris 13 qui étaient vraiment intéressantes. 13 vérités sur la Bible. Premièrement, la formation de la Bible. Comment la Bible s'est formée? C'est vraiment exceptionnel. La période qui s'étend entre la rédaction du premier livre, la rédaction de quand on a rédigé le premier livre de la Genèse et celle du dernier livre est d'environ 1600 ans. Vous savez que, oui, Dieu, dans la Genèse, on voit la création, mais le livre n'a pas été créé immédiatement. Le livre a été créé beaucoup plus tard. Alors, il y a une période de 1600 ans qui sépare la rédaction du premier livre et celle du dernier livre. 1600 ans, 40 auteurs différents pour 66 livres. Il n'y a aucune contradiction et une unité constante tout au long du livre. La Bible a été rédigée en 3 langues différentes, en hébreu, en grec et en araméen. La Bible a été rédigée dans au moins 6 parties différentes du monde. Israël, en Babylonie, qui est actuellement la Turquie, en Égypte, en Grèce, à Rome et en Arabie. Les auteurs dans la Bible, ce n'étaient pas des scribes professionnels, ce n'étaient pas des gens habitués à l'écriture. 40 auteurs avec 11 professions différentes. rois, il y avait des prêtres, des prophètes, soldats, hommes d'État, bergers, pêcheurs, percepteurs d'impôts, médecins, fabricants de tentes et fermiers. Alors, les gens, les hommes qui ont écrit la Bible, les auteurs avaient 11 professions différentes. Les Écritures possèdent 8 genres littéraires. Il y a une narration historique, biographique, il y a de la poésie, il y a des proverbes, il y a du drame, il y a sermons, il y a des lettres, puis il y a des psaumes. Le Nouveau Testament contient 300 citations de l'Ancien Testament et 70 d'entre elles ont été tirées de la loi de Moïse. 170 proviennent des prophètes et 60 viennent des autres livres. Dans la version anglaise, elle prend 70 heures et 40 minutes pour être lue. Alors, si vous voulez lire la Bible du début jusqu'à la fin, ça va vous prendre 70 heures. Alors, 70 heures, on dit à peu près 2 semaines de travail. Alors, la formation de la Bible, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un livre qui a été formé, que Dieu a parlé, Dieu a écrit lui-même du début jusqu'à la fin. Ce sont vraiment, Dieu a pris des gens, il a pris des auteurs, des professions différentes pour faire vraiment quelque chose qui était différent, justement. Alors, deuxième chose, deuxième vérité, la Bible s'est conservée. Comment qu'on sait que la Bible s'est conservée? Dieu a permis la conservation d'un grand nombre de textes grecs. On parle du Nouveau Testament, les textes grecs à partir desquels il est possible de déterminer clairement le contenu du Nouveau Testament en grec original. Alors, on a des papiers, on a des preuves comme de quoi que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Par contre, l'Ancien Testament, le texte lui-même est resté intact grâce à un fait important. Il y avait le manuscrit hébreu le plus ancien datait de seulement 1000 ans après Jésus-Christ. Alors, il y avait un texte qui a été écrit 1000 ans après Jésus-Christ. Mais ce fut la cible de plusieurs critiques. Les gens, il y a des gens qui disaient que, bon, ben écoute, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Comment qu'on peut vraiment savoir que c'est vraiment les premiers écrits? Mais au mois de mars de l'année 1947, un jeune bédouin a lancé quelques cailloux dans la fente située au flanc d'une des falaises de la région de Kirbet Qumran. C'est un peu au nord-ouest de la mer Morte, à 12 km au sud de Jéricho, puis il a entendu un bruit spécial, comme quelque chose qui se casse. Alors, il a tiré un caillou dans une caverne, puis il y a quelque chose qui s'est cassé. Il venait de découvrir l'une des nombreuses grottes infectant cette région, et ces grottes-là étaient inexplorées. Et il y avait des jarres, des grosses jarres scellées, intactes, renfermant de précieux manuscrits. Puis il y a des archéologues qui ont effectué des fouilles, puis ils ont trouvé un morceau de chaque livre de l'Ancien Testament, sauf celui d'Esther. Alors, il y avait des vieux manuscrits qui dataient de l'époque ancienne, qui étaient justement l'Ancien Testament. Puis on a comparé ces manuscrits-là anciens avec les manuscrits qu'on avait, que je vous ai dit tout à l'heure, de 1000 ans après Jésus-Christ, et ils étaient identiques. Alors, depuis qu'on a fait, c'est une découverte extraordinaire. Alors, on a vu qu'on peut prouver que le texte original qu'on a dans la parole de Dieu, c'était vraiment le même texte qu'il y avait au tout début, écrit en hébreu. Alors, la Bible s'est conservée. Ce qu'on lit, c'est ce qu'il y avait au tout début. Troisième vérité, toute Écriture est inspirée de Dieu. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Notre siècle est un siècle de recherche scientifique. On vit dans un temps, dans un monde de science, un monde de connaissances. Aujourd'hui, on ne jure que par la science. Tout doit être cédé à la science. Si ce n'est pas prouvé scientifiquement, on ne le croira pas, on n'y croira pas. Mais vous savez, la science n'était pas au rendez-vous il y a 2000 ans. Ni toutes les découvertes de la science n'étaient pas là. Alors, il y a 2000 ans, on ne pouvait pas prouver scientifiquement absolument rien. Alors, la Bible, on ne pouvait pas la prouver. C'est pour ça que la Bible, ce n'est pas, on ne peut pas la prouver. Oui, on peut la prouver d'une certaine façon avec les écrits qu'il y a, mais on ne peut pas prouver. La Bible, c'est une inspiration de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu a travaillé par son Esprit dans différentes personnes afin que ces gens-là puissent mettre par écrit ce que Dieu voulait. Dieu a dirigé, mais Dieu n'a pas dicté, Dieu n'a pas écrit. Il y a des portions des Écritures qui ont été dictées par Dieu. Exemple, les 10 commandements. Les 10 commandements, Dieu a dit, c'est vraiment les paroles de Dieu. La loi de Moïse, c'est les paroles de Dieu. Donner de la bouche de Dieu à Moïse. Et Moïse les a écrits sur un parchemin. Mais la plus grande partie de la Bible ne fut pas dictée. Mais Dieu a contrôlé les Écritures afin que l'homme, inspiré par le Saint-Esprit, puisse écrire ce que Dieu voulait qu'on sache. Dieu a donc employé des auteurs humains avec leur propre style. Avec un style, des auteurs qui ont un style différent. 40 auteurs que j'ai dit tout à l'heure pour 66 livres. Avec des styles différents. Le style de Paul, l'apôtre Paul, était différent du style de Moïse. Puis il vivait dans une époque différente. Alors, Dieu a dirigé les auteurs de sorte qu'ils ont pu produire la révélation divine, inspirée par Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Alors, la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas des auteurs, des gens qui se sont installés le matin et qui ont dit, « Bon, ben coudonc, on va écrire ce qu'on pense, ce qu'on peut... » Non, c'est plus complexe que ça. C'est vraiment, d'une certaine façon, la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui a été donnée à des gens. Quatrième vérité, son indestructibilité. Son indestructibilité. 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. Il est dit, « Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » L'empereur Dioclétien, c'est un empereur, il a dit à un moment donné, la religion chrétienne est détruite et le culte aux dieux est restauré. En voulant dire, le christianisme, c'est terminé, on n'en parle plus. 10 années plus tard, l'empereur Constantin faisait du christianisme une religion d'État. Le philosophe français Voltaire a dit, dans 50 ans, le monde n'entendra plus parler de la Bible. Ça, c'est Voltaire qui a écrit ça. 50 ans plus tard, la Société biblique de Genève achetait la même compagnie de presse que Voltaire avait utilisée pour publier ses écrits. Tyndale fut l'un des premiers traducteurs de Bible en anglais. Il a subi tellement de persécutions que sa traduction de la Bible a pratiquement été détruite. Traduction de la Bible en anglais. Malgré cela, la majorité des Bibles traduites aujourd'hui sont en anglais. Quelqu'un a déjà dit « le livre le plus détesté, mais le plus distribué à travers les âges ». La Bible, elle est indestructible. Tu ne peux pas la détruire. Parce que pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu et Dieu veille sur sa parole. Elle est indestructible. Elle a toujours été là à travers les âges. Cinquième vérité, elle est infaillible. Psaume 19, chapitre 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Il n'y a pas d'erreur. La Bible est infaillible. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu jouissent d'une relation personnelle avec lui et sont protégés par la parole de Dieu. La parole de Dieu protège le chrétien comme un exemple très facile. Le bouclier du Capitaine America protège le Capitaine America. Si vous avez vu le film du Capitaine America, son bouclier, c'est un alliage expérimental d'acier et de vibranium, c'est ce que j'ai lu. Alors, c'est pour ça que son bouclier, il est indestructible. Alors, la parole de Dieu, elle est infaillible. Et Dieu dit de ne rien ajouter à sa parole, car il peut y avoir un danger. Dans l'Apocalypse, c'est écrit de rien ajouter. Il y en a qui vont dire, « Ah, bien ça, je lis ça, je ne prends pas ça, c'est dans la Bible, mais ça ne m'intéresse pas. Puis moi, je rajoute des choses dans la parole de Dieu. On peut faire telle chose, on peut faire telle chose. » Mais si ce n'est pas écrit, tu ne le rajoutes pas et tu n'enlèves rien. C'est comme une recette de cuisine. Une recette de cuisine, si on commence à ajouter des choses, certaines choses, à un moment donné, ça peut gâcher la recette. C'est la même chose. La parole de Dieu est infaillible, elle est parfaite. Sixième vérité sur la Bible, elle est d'inspiration divine. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, l'inspiration, c'est divin, c'est de Dieu. La Bible a été totalement été inspirée de Dieu. La Bible, c'est l'autorité finale dans tous les domaines. On dit qu'il y a au moins un livre de la Bible qui a été traduit dans au moins 1431 langues et dialectes, la rendant disponible pour 97% de la population mondiale. Au moins un livre dans 1431 langues. Puis la Bible complète a été traduite en 240 langues. C'est sûr que les traductions que l'on fait sur la Bible, ce n'est pas d'inspiration divine. Ce n'est pas une inspiration divine parce que c'est traduit par des hommes, par des femmes. Alors, à différents degrés, la traduction peut avoir certaines erreurs. Mais l'important, c'est qu'on puisse comprendre le sens du passage. Alors, sixième vérité, elle est d'inspiration divine. Septième vérité, l'influence de la Bible. Elle a eu une influence énorme sur des croyants et des non-croyants. Elle a changé la vie de bien des personnes. Elle a inspiré divers livres classiques. Elle a inspiré divers romans. Elle a inspiré divers films. La Bible a inspiré les plus grands peintres de l'histoire, en passant. Elle a eu une influence sur les artistes, sur les scientifiques, les spécialistes en lettres et sciences humaines. Vous savez que dans de nombreuses universités aujourd'hui, la Bible est étudiée pour sa littérature. La Bible a eu une grande influence sur les nations. La plupart des lois du monde occidental, à la fois en Europe et en Amérique, ont subi l'influence des lois des Écritures. Concept de propreté, égalité, honneur, religiosité que les nations ont adopté proviennent tous de l'influence que les Écritures ont eue sur les nations. Je n'ai pas le temps ce matin de vraiment faire la nomenclature de tous les versets, mais vous savez, la nourriture, les régimes, on voit ça dans l'Ancien Testament, la propreté, le concept, toutes ces choses-là viennent des Écritures. Ce serait intéressant à un moment donné de tout regarder, comment on peut aller puiser dans la Bible toutes les choses que l'on sait aujourd'hui. La plus grande influence que la Bible a eue, c'est celle sur des personnes. La Bible, ces gens-là qui ont été transformés par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du calvaire, régénérés par le Saint-Esprit. Alors, la Bible a eu une grande influence à travers l'histoire. Huitième vérité sur la Bible, sa valeur morale. Matthieu, chapitre 5, verset 44, Jésus parle et dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, la Bible a une valeur morale. L'éthique de la Bible couvre tous les domaines de la conduite humaine. Relation homme et femme, la relation parent et enfant, la conduite appropriée d'employeur à employé, on voit ça dans la Bible, le gouvernement versus le citoyen, l'État et la nation, le domaine sexuel, les affaires, l'argent, l'économie, les loisirs. La Bible procure la seule base pour un comportement éthique véritable, pour un comportement basé sur la reconnaissance de l'existence de Dieu. Et en plus, la Bible met un jugement sur le comportement. Ce n'est pas vraiment de dire, « Ben moi, je vous recommande de faire cela, Dieu dit de faire cela, de faire ci. » Oui, il y a ça, mais en plus, Dieu apporte un jugement à ceux qui ne veulent pas se référer justement à ce que Dieu prescrit dans la parole de Dieu. Autrement dit, il y aura des conséquences un jour. Alors, la Bible, c'est très important, elle a une valeur morale. Pour aujourd'hui, alors que la moralité est laissée de côté dans ce monde, où c'est plus l'argent, c'est plus d'autres valeurs, très important de revenir à la Bible. Neuvième vérité, ce sont les paroles précises de Dieu, avec toute son autorité. Ésaïe, chapitre 1, verset 2, c'est écrit, « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. » La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Beaucoup de gens croient que Dieu est loin, qu'il n'y a pas de communication avec l'homme et Dieu. Mais Dieu est loin d'une certaine façon, mais tellement proche. Mais Dieu se révèle dans sa parole. C'est son discours, c'est ses commandements, c'est sa loi, c'est son salut. C'est son Fils qui est mort pour le rachat de l'humanité. C'est son histoire. C'est Dieu qui transmet à l'homme ses instructions. C'est lui l'autorité suprême. N'oublions pas que tout a été fait par lui. Si on a un souffle de vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on vit. On est redevable à Dieu. Alors, la Bible, c'est les paroles, ce sont les paroles précises de Dieu pour l'humanité. Et il a plu à Dieu d'employer la Bible, la parole de Dieu, comme une autorité permanente. C'est Dieu qui a décidé cela. La Bible, c'est l'expression permanente de la pensée, de la volonté de Dieu. Les Écritures, ils enseignent, ils jugent le cœur, ils corrigent, ils disciplinent selon la justice de Dieu, afin que l'homme soit accompli. Comme je dis souvent, on achète aujourd'hui une télévision, on achète quelque chose, électronique. On a besoin de la... le livre d'instruction, souvent, est très épais, il y a beaucoup de choses à savoir. Et pour faire fonctionner l'appareil, on doit se référer au livre d'instruction. C'est la même chose. Pour notre instruction, l'homme, pour qu'il puisse fonctionner dans la vie, il doit se référer à la parole de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ce qu'on voit dans le monde, c'est quoi? C'est de la violence, de la corruption, de la misère, de la rébellion. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dixième vérité, ça s'en vient, on a presque terminé. L'Écriture est suffisante pour sauver les pécheurs. Actes chapitre 4, verset 12, c'est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La parole de Dieu, la Bible, c'est on prêche Christ. Il y a des religions, il y a des livres sacrés, il y a toutes sortes de choses, mais la seule façon d'être sauvé, si on meurt, d'être en présence de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Onzième vérité, elle possède une clarté pour comprendre, pour permettre la compréhension. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, la parole de Dieu, c'est une lumière puis qu'on puisse voir clair pour la façon qu'on doit se comporter, pour comprendre, avoir une certaine compréhension. La parole de Dieu nous donne une direction à notre vie, par la lumière qu'elle jette sur nos circonstances. Si on manque d'électricité dans une maison, une panne de courant, qu'est-ce qu'on fait? Surtout le soir, on prend une lampe. On prend une lumière, on prend une lampe de poche, on prend quelque chose pour s'éclairer. Sinon, impossible. Vous savez, en pleine noirceur, là, on va chercher, là, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, pour se déplacer, dans une certaine façon, dans notre vie quotidienne, on a besoin de la parole de Dieu. Douzième vérité, elle est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Elle n'est pas statique, ce n'est pas un livre comme un autre. C'est un livre qui nous parle, c'est un livre qui va au plus profond de notre cœur. C'est le livre de Dieu, Dieu se sert de ce livre-là pour nous parler. C'est un livre qui apporte le salut, le réconfort, qui apporte la guérison. C'est un livre, un instrument de jugement et d'exécution. C'est un livre qui est tellement complet. C'est un livre qui est vivant, parce que Dieu est vivant. La parole de Dieu est vivante d'une certaine façon. Treizième vérité, la dernière, les sujets que la Bible traite, ils sont uniques. La Bible traite de la personnalité, de l'unité et de la trinité de Dieu. La Bible traite de l'origine de l'espèce humaine et de sa chute. La Bible traite de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Elle traite du salut de Dieu. Elle traite de la géographie, de l'histoire du peuple juif. Elle traite de paroles prophétiques qui se sont réalisées ou bien qui vont se réaliser. Elle traite de la raison de l'être humain sur la terre. Elle traite de l'avenir de la race humaine sur la terre et de le jugement de l'humanité. La Bible traite de tout. Tout ce qu'on doit savoir est écrit dans la parole de Dieu. La Bible est un livre sans fin. Elle est complète. Elle traite de tous les sujets. Monsieur Lewis Sperry Schaeffer, c'est un théologien américain, quelqu'un qui a étudié la théologie, a dit « La Bible n'est pas un livre que l'homme aurait pu écrire, ni un livre qu'il écrirait s'il le pouvait. » Il y a un éditeur londonien, non pas londonien, londonais, bien connu, qui envoyait une lettre à 100 personnes. Auteurs, professeurs universitaires, politiciens, marchands, un peu tout le monde. Il leur demanda quelque chose. « Si vous iriez en prison pour 3 ans, quel serait le livre le plus important que vous apporteriez? » Alors, 98 % ont choisi la Bible. Et ce n'étaient pas des gens de foi. 98 %. George Washington, ancien président des États-Unis, a dit « Il est impossible de gouverner correctement le monde sans Dieu et la Bible. » Abraham Lincoln a dit « Je crois que la Bible est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme. » Et chaque dimanche matin, honnêtement, nous prêchons cette Bible-là, les Saintes Écritures, la parole de Dieu. C'est un livre très différent de tous les autres, parce que son auteur, c'est Dieu. Et ce livre s'adresse aux gens. Il doit être abordé avec respect et humilité. Et son contenu est véridique. Il est certain qu'aujourd'hui, que quand on parle de la Bible, vous savez, il y a plusieurs années, il y a des groupes au Québec qui prenaient la Bible, qui mettaient ça dans un très haut, il y avait des regroupements, ces gens-là se regroupaient, puis ils prenaient une Bible, puis ils mettaient ça très haute. Dans un genre de boîte de verre avec un cadenas. Personne n'avait la clé. On ne pouvait pas toucher à ça. Dans d'autres circonstances, il y a des gens qui disaient que la Bible est réservée seulement pour une élite, des théologiens, des prêtres. Seulement eux autres étaient capables de la comprendre. Honnêtement, la Bible est pour tout le monde. Dieu n'a pas écrit un livre pour une élite. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a des gens qu'on peut donner une Bible, c'est des gens qui n'ont pas, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas d'instruction, puis ils peuvent comprendre la Bible. La Bible, c'est pour tout le monde. C'est une révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, la Bible, c'est une référence. C'est le seul livre que je puisse me référer à chaque dimanche matin. Et j'ai d'autres livres après ça qui peuvent m'expliquer le contexte, l'histoire un peu, dans les personnages. Après ça, je me fie sur quelque chose d'autre, d'autres références. Mais la Bible, c'est le livre que je me sers et que toute femme devrait se servir pour comprendre la raison d'être de l'homme sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir, un jour, il va y avoir un nouveau ciel, il va y avoir une nouvelle terre, mais ma parole va tout le temps demeurer. La Bible est éternelle, d'une certaine façon, parce qu'elle était, comme on a lu au début, La Bible était au début, était avant la création, et la Bible sera tout le temps après la création. Et lorsqu'il va arriver, la Bible nous parle de la fin de l'homme sur la terre. Et après cela, la Bible sera toujours là. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Dieu ne nous a pas tout révélé. Mais ce qu'on avait besoin de savoir, c'est dans la parole de Dieu. Amen.